Ce qui était marrant avec Shell, c'est que, enfin, en tout cas, une certaine époque, parce que maintenant tout est pollué partout, mais il y avait de l'air frais, quoi, tu vois. Et j'entends les chants d'oiseaux là. On approche du parc, et quand je voulais m'aérer un peu, je venais au parc, quoi. Rendez-vous amoureux, ou le stade aussi, où je venais courir tout seul. Parce que j'ai jamais pu faire partie d'une équipe. C'est comme l'histoire d'enfance, quoi, ça te marque. Personne ne voulait que je fasse partie de l'équipe de football, hein. Personne ne voulait que je fasse partie de rien, du sport, parce qu'à chaque fois, je laissais passer les balles, trop rêveur, quoi. Donc à un moment donné, tu fais partie d'aucun groupe, quoi.
Jamais choisi.
J'ai jamais aimé ni les bandes, ni les clubs, ni les clans. Jamais.
Jacques Higelin. Une production des radios francophones publiques sur France Inter. Réalisation Dominique Martineau Lagarde.
Oui, donc on est à Shell parce que, en fait, bon, vous êtes né à Brou-sur-Chantraine, mais en fait, Brou-sur-Chantraine, ça a duré quoi, 4 ans à peine? Et la maison a été détruite par un bombardement.
Je ne sais pas si elle a été. Non, la maison n'a pas été détruite puisqu'on est revenu dans la maison. Mais je ne sais pas. Mais mes parents étant décédés, plus personne ne sait quand est-ce qu'on s'est barré ou pourquoi. Mon père était cheminot, donc il y a eu bombardement du triage de verre, V-A-I-R-E-S.
Et finalement, déménagement pour Shell ou...
Non, bah... on est passé par Le Pin.
Ouais.
Et... on est parti en charrette, en fait, avec tous les bagages dessus. Tiens, j'entends l'avion. Ça va pas tarder à bombarder. Le mec qui a la trouille.
Ben voilà le parc.
Voilà. Mais c'était pas comme ça, bien entendu. Regarde, maintenant c'est devenu un parking. Il y avait un chemin de terre. Tout était en terre. Ça a été goudronné. Voilà, la fin. Tu vois le stade là-bas, dans le parc. Là, je venais tout seul. Parce que j'aimais bien courir. Et je venais m'entraîner, des fois. Mais comme je faisais pas partie d'un club sportif, enfin, je te dis, ils voulaient de moi nulle part. Alors finalement, j'ai fini artiste, hein, ce que j'étais, quoi. J'ai fini où j'ai commencé. C'est quand ils veulent pas de toi en tant que sportif. Mon frère était sportif, alors des fois, je venais voir les matchs, là, dans le parc de Shell. Il y a ce stade, là, puis je venais voir les matchs de mon frère. D'ailleurs, au moment où on est en train de dire ça, il y a des mecs qui jouent au ballon et qui nous regardent parce que t'as un... Bonjour. Voilà, mon frère devait avoir l'orage et jouer au ballon.
Corde sensible du grand chapiteau de la rue.
Salut.
Et Polo, il était gentil parce que lui, il était vraiment admis. J'assistais à ses matchs et j'applaudissais.
Polo, c'était le frangin qu'on admirait un peu quand même ou pas?
Ah non, c'est pas admiré, c'est... Oui, j'étais fier de mon frère, oui, bien sûr. Admiration. Non, j'aimais mon frère, je voulais qu'il gagne. Voilà. C'est de l'amour. Bonjour. Merci. Donc j'aimais bien être dans le parc parce que c'était à l'écart de l'avenue centrale qui était l'avenue de la Résistance. J'ai jamais été très résistant non plus.
Qui s'appelait déjà avenue de la Résistance, non?
Oui, oui, oui. Oui, si. Bah oui, parce que je suis né en 40. Je suis arrivé ici en 46, 47. 46, 45, je sais pas.
Il y avait encore des Américains 45. Un peu partout ou pas?
Oui, sûrement. Si on voit pas pareil quand on est enfant, quoi. Pour moi...
C'est vrai que les Américains, c'était les chewing-gums, c'était...
J'ai vu les Allemands aussi, les tanks. Il y avait beaucoup de tanks, il y avait beaucoup de... Il y avait tout ça, quoi. Il y avait la peur aussi diffuse, mais...
La peur?
Très présente. Ah ouais, partout. Les parents avaient peur, ouais. Il y avait une ambiance d'angoisse aussi.
Est-ce qu'après cette ambiance d'angoisse de la guerre, il n'y avait pas aussi une espèce d'euphorie de l'après-guerre où on avait l'impression que tout était possible et que tout allait être reconstruit et,
quand tu es petit, c'est pas comme ça. Même la guerre, tu comprends pas trop, quoi. Je me rappelle, j'ai juste un souvenir de soldats allemands qui étaient rentrés dans notre maison parce que mon grand-père parlait allemand. Donc alsacien, il avait appris, ils avaient été occupés. Donc ils apprenaient l'allemand. Et les officiers ont été plutôt sympas. Ils nous avaient même filé leurs flingues pour jouer avec, déchargés bien sûr. Et on se rendait compte de rien. Quand t'es enfant, tu te rends pas compte, quoi. Alors là, je me promenais, là où on marche, je me promenais avec Hélène. Mais Hélène, je ne me rappelle plus de son nom de famille.
Hélène, c'était...
ma petite copine, je sais pas. On se promenait avec une émotion énorme. On remontait de la gare. Où elle revenait, je ne sais plus pourquoi. Et on se donnait rendez-vous au parc. Et j'ai gardé un souvenir. Même l'odeur, c'est plus la même. J'ai une odeur d'automne, de feuilles mouillées, d'attente dans la nuit qui tombe tôt, vers 5h, 6h, et en sortant de l'école, elle n'était pas à la même école que moi, on se retrouvait et on se promenait, et puis c'était notre passage du coup de liberté, en dehors des regards. Tu te rends compte ?
Je me souviens coin de rue, aujourd'hui disparu, mon enfance jouait par là. Je me souviens de cela. Il y avait une palissade, un taillis d'embuscade, les voyous de mon quartier venaient s'y batailler. À présent, il y a un café, un comptoir flambant qui fait de l'effet, une fleuriste qui vend ses fleurs aux amants et même aux enterrements. Je revois mon coin de rue, aujourd'hui disparu. Je me souviens triste soir où le cœur sans espoir, je pleurais en attendant un amour de 15 ans, un amour qui fut perdu. ce coin de rue.
Mon père, il voulait bien que je sois chanteur, et ça me plaisait bien parce que je jouais du piano. Et
avec quel répertoire ?
Je me rappelle toujours cette phrase, il disait, le gosse, il est formidable. Moi, tu parles. Moi, j'avais peur. Tu vois, donc on peut traverser là, mais je veux passer devant le cinéma, là. Parce que là, je suis passé un dimanche après-midi, il y avait tous les gosses qui étaient venus voir un film d'aventure. Et à l'entracte, tu avais un documentaire. À l'entracte, ils mettaient des projecteurs, tu sais, des rampes. Ça t'éblouissait par en dessous. Eh bien, oui, ABC Cinéma, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est l'ABC.
Donc ça, ça a toujours été un cinéma.
Oui, toujours. Il était juste derrière l'école, quoi. Et là, j'ai chanté avec mon, accompagné par son papa. Voici le jeune Jackie Gielin. Jacques Gielin.
Il marche plus, hein. T'as vu ? Il a l'air d'être bien fermé, oui.
Moi, si j'avais de l'argent, je le rachète. Puis j'installe un studio là-bas. Et je pars, pour l'instant.
Ce
serait trop de racheter le cinéma où t'as commencé, puis t'en fais un studio, ouais.
Et soudain apparu je revois ma palissade, mes copains, mes glissades, mes dessous de muguet printemps, mes 15 ans, mes 20 ans. Tout ce qui fumait, qui n'est plus. Tout mon vieux coin de rue.
Là, c'est tout le chemin de l'école. Il y a 3 ronds-points. Et à chaque fois, Polo passait avant moi. Parce qu'à chaque fois, très souvent, il me disait, il y a des mecs qui t'attendent pour te casser la gueule. Alors, j'avais... Là, c'est... tu vois cette maison, là ? On sonnait sans arrêt, là, pour faire chier les gens. Comme tous les gosses.
Comme tous les gosses.
Et on partait en courant. Donc, tu vois, je venais de la route que tu vois en face, avec les 3 ronds-points. Il y a toujours eu ces 3 ronds-points. Maintenant, bon, ils ont été modernisés. J'avais un chemin... qui était, quand j'arrivais au 3e rond-point, c'était l'école. Et là, comme j'arrivais souvent en retard, quand je m'étais pas fait passer pour malade, j'allais jusqu'au portail de l'école. Et quand j'arrivais au portail, j'entendais déjà les gosses qui comptaient, tu sais, les... Une fois, deux fois, deux... Et j'entendais cette musique là, et il fallait traverser toute la cour. Et le nombre de fois où je suis resté devant le portail en me disant je rentre, je rentre pas. Ben voilà, c'était là. C'est un parking, tu vois. Tout a été rasé. Par contre, tu vois le mur, l'espèce de truc en ciment là.
Ça, c'est l'origine.
Et là, il y avait des gens, il y avait. Ça, c'était la cour. Les bâtiments, ils étaient là. Jusqu'au bout. D'ailleurs, je ne savais pas que les deux communiquaient. Au bout, il y avait un mur, on ne voyait pas dans la rue. Ben, tu vois, ça a disparu, quoi. Et le portail était juste là où il y a l'autre barrière. Je resterais devant la porte et j'écoutais. Et puis je me disais, non, j'y vais pas, quoi. Et là, je repartais.
À la maison ou
carrément ? Non, non. Ben non, puisque les parents, j'étais censé être à l'école, donc j'avais jusqu'à... On sortait de l'école à 4h30, puis on rentrait à pied, de toute façon. Donc, je me disais, j'ai tout le temps devant moi. Et je prenais cette rue, la rue Marc, là. Et j'allais au bout. C'était pas du tout...
C'était vraiment le sentier de l'école buissonnière.
Ouais. Et là, je partais, parce que là-bas, tout au bout... J'arrivais dans un terrain ça c'était la campagne après, les arbres. Donc j'avais qu'une idée, c'est pas me faire gauler avant, parce qu'une fois que, si la rentrée était à 8h30 ou 8h, je sais pas, ou 9h,
8h30,
je me barrais, j'arrivais, mettons, à 9h, à l'école c'était trop tard, bien sûr. Ou alors rentrer dans la classe, je l'ai fait une fois, puis je l'ai pas fait deux, quoi. Où tout le monde s'est retourné, et, ah, Jacques Higelin, voilà.
Et ta soeur,
l'école est à telle heure, et ça, et... c'était un con, mais je pouvais pas le sacrer. D'abord, il y a eu une directrice formidable. Et puis, elle faisait venir des professeurs. C'était bizarre comment elle faisait. Il y avait une professeure de dessin qui était une femme extraordinaire. Il y avait un professeur de musique qui jouait du violon. Il est venu pour nous apprendre à la musique. Il jouait. Il faisait pas de commentaires. Il venait. Il avait envie de jouer. Et tout le monde se poussait du coude. Mais moi, je le trouvais merveilleux, quoi, ce violoniste. Je me rappelle de ce tabac aussi. Ça, ça n'a pas bougé. C'est bizarre. Ça, c'est tout mon chemin de l'école, quoi. Et j'en rêve, des fois.
Oui.
Ouais. Des fois, je fais des rêves et je retrouve toujours les trois ronds-points.
Et c'était un temps porteur de peur et d'angoisse que ça ou...
Ouais. Oui, mais en même temps...
De liberté aussi. Hein.
Ouais. C'était ça, les deux en même temps. D'abord, l'excitation d'être hors la loi. De pas aller à l'école comme les autres, de faire le choix toi-même de pas y aller. C'était pas... Remarque, c'est très mauvais exemple là, que je donne. Hein.
D'être insoumis.
Si les jeunes... Ouais, d'être hors la loi, d'être en dehors du circuit. De toi-même t'extraire et prendre la décision de pas y aller, quoi. C'était un truc... Oh, ça, je m'en rappelle toujours de ce rond-point aussi. Parce que là, ça a commencé à me travailler. Quelle rue ? Albert Caillou. C'est là où j'ai fait mes débuts d'artiste. À la fête, justement, le dernier jour où la directrice a dû se barrer pour laisser la place au mec que j'aimais pas, et qui m'aimait pas parce qu'il aimait pas les artistes. Donc elle est allée voir, elle a organisé une fête de fin d'année, elle m'avait convoqué dans le bureau, et je croyais que c'était pour m'engueuler. Et puis elle m'a dit, assieds-toi. Elle m'a dit, j'ai lu une de tes rédactions. C'est magnifique. Et elle m'a dit, attends, deux secondes, c'est là, la cour.
On va y aller.
Et elle me dit...
C'est ouvert en plus.
J'adore, j'aime beaucoup ce que tu as écrit. Et elle dit, est-ce que tu aimes le théâtre? Je dis, je sais pas ce que c'est. Elle me dit, le théâtre, tu sais pas ce que c'est. Elle dit, est-ce que tu connais Molière? Ça, t'as jamais entendu ce nom-là? Je dis non. Et elle me dit bonjour. Ça, c'est à quelqu'un qui est dans une voiture. Elle me dit, je t'ai vu à toutes les récréations. Elle dit, tu parles avec les plus petits. Je devais avoir 9 ans. Elle me dit, tu parles avec les petits et qu'est-ce que tu leur racontes? Je me suis toujours demandé. Ils sont tous autour de toi et tu fais plein de gestes et tu leur racontes plein d'histoires. Elle me dit, mais c'est fou, tu les inventes? J'ai dit, bah oui, au fur et à mesure, quoi. Parce que je pouvais pas jouer avec les gosses de mon âge, ils m'aimaient pas. Pareil, ils me faisaient chier, putain. Donc les petits, ouais, ils m'aimaient. Parce que je leur racontais des histoires. Et là, elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait? On était à 3 mois de la distribution des prix. Elle dit, est-ce que tu voudrais... Je voudrais que tu joues une scène du bourgeois gentilhomme. Elle me donne le bouquin. Tu sais, les classiques, les tout petits bouquins. Elle me dit, voilà, je t'ai mis la page. Tu peux la prendre par cœur et jouer le bourgeois gentilhomme, une scène. Je me rappelle plus, par contre, la scène. Et puis, elle me dit, et d'autre part, elle dit, il y a Les Vieux d'Alphonse Daudet. Est-ce que tu te sens capable d'apprendre les... Il y a 13 pages. Tu peux les apprendre et le dire à la... Et c'est elle qui a décidé de ce que j'allais faire. Et le jour de la distribution des prix, il y a eu un spectacle. J'ai monté le spectacle avec les petits, Parce qu'elle m'a dit, tu t'occuperas, tu parles, c'était génial ce qu'elle me demandait. Elle dit, je te donne la permission, t'arrêtes la classe et tu montes le spectacle avec les petits metteurs en scène, tu vois. Waouh, qu'est-ce que... Je me suis pris vraiment au jeu, et j'ai vraiment... Les petits, j'avais une espèce de pouvoir de metteur en scène, tu vois. J'étais, mais non, pas comme ça. Mais comme il me faisait confiance, il a dit, tu vas monter le spectacle des petits, c'était quand même génial, cette femme. Et puis, donc, le jour arrive la distribution des prix, et mort de trouille, j'ai récité, là, sur cette scène qu'on va voir, dans la salle Albert Caillou, qui était le théâtre... Ça appartenait au curé, quoi, à la paroisse. À chaque fois, c'est très émouvant. C'est vraiment le premier endroit, quoi.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur Higelin. J'étais bienvenu une fois pour voir.
Ah oui,
c'est parce que je suis avec des amis. On fait une émission pour le Canada, la Belgique, la Suisse et la France. Et sur ma vie. Et là, je leur disais que... Ah oui, ça paraît toujours plus grand, mais c'était bien là. Ben, c'est là que j'ai fait mes débuts, sur cette scène, la salle Albert Caillou. Tu te rends compte, moi, la scène me paraissait immense. Et,
la salle n'a pas dû changer, ils ont ouvert le rideau.
Et puis, j'ai des rêves, des fois, des rêves que je m'en dépatouille pas, où je me rappelle très bien, toi, cet escalier qui montait des deux côtés. J'en ai fait encore l'autre fois un rêve là-dessus, où je me vois en disant, il faut que je rentre, mais... Je suis plus un enfant, toi, j'ai mon âge, mais j'ai dit comment on fait, toi,
ce
genre de
truc. Qu'est-ce que ça fait là de monter la scène?
Ben, c'est vachement bien. Ben, je suis déjà monté l'autre fois, il y avait des gens qui répétaient l'autre fois, je dis il y a quelques années. Et j'ai pleuré parce que c'est.
On compte qu'il y avait.
Il y avait mes parents et Polo qui étaient là, quoi. Et puis les gens, ils avaient applaudi fort, quoi, parce qu'ils étaient étonnés. 13 pages, tu sais, ça fait une minute par page, je sais pas moi. 13 minutes, 14, 15 minutes, quoi. C'est beaucoup pour ça. Tu te rends compte, j'étais là, et puis voilà, tout plus petit, comme ça. Avec ma grand-mère m'avait tricoté un nœud papillon pour être élégant. J'avais un costume bleu pétrole. J'avais les oreilles rouges tellement j'avais peur. J'étais ému. On peut pas ouvrir ?
Attends, y a une dame qui est partie.
Mais c'est un conte, tu vois, les vieux d'Alphonse Daudet. C'est un petit garçon qui va voir ses grands-parents. Donc il y avait mon grand-père aussi, ma grand-mère, mon père, ma mère et Polo, qui étaient là dans la salle. Et après, tu parles, ils étaient fiers comme tout. Voilà. T'imagines le rideau qui s'ouvre là quand on vient. Merci monsieur. Et puis voilà, je me rappelle toujours de ça. Donc début de showman solo, début de metteur en scène et début d'acteur. Ici, là où je suis. C'est trop. Comme quoi. Et à la suite de ça, deux jours après, elle est venue voir mes parents. Et c'est marrant parce que c'est une femme qui avait un fichu, qui avait des talons plats, une jupe droite. Elle était très gentille, très très profondément. Intelligente, très intelligente. Mais elle avait mis déjà de l'art dans son école, l'étude de l'art. Et en plus, c'est elle qui a dit, lui, il faut absolument que vous ne contrariez pas. Sa vocation, c'est évidemment ça. Où il va écrire, il va peindre, c'est un artiste, il faut qu'il y aille, quoi. Il est fait pour ça.
Et du coup, les parents...
Et mes parents ont compris ce qu'elle a dit, parce que c'est une femme très intelligente, elle a parlé calmement, elle a dit, j'en suis convaincu. Et après ça, vous faites, il faut qu'il continue ses études, tu parles. J'ai quitté l'école, quoi, un an après, je crois, ou deux ans... Enfin, je devais avoir 11 ans, 12 ans, puis je suis resté jusqu'à le certificat d'études primaires, 14 ans, que j'ai eu en copiant sur un mec.
Bonjour.
comme tous les banlieusards, forcément tout finissait à la gare, tu vois. Tout commençait, tout finissait à la gare.
Toujours, toute la ville.
Ouais, parce que c'était partir à Paris, même si c'est pas loin, c'était quand même extraordinaire de monter à Paris, quoi. C'était la gare étant l'endroit où tu venais, soit pour attendre quelqu'un. Des fois, mon père, il travaillait à Paris. Et je l'attendais là. Et c'est marrant, ce matin, je me suis réveillé avec une drôle d'impression en disant que j'allais revenir. C'est la fois où j'ai vu mon père. Il descendait du train, je venais le chercher à la gare parce que pour voir mon père, pour l'attendre, pour le chercher, quoi. Et j'étais tout content de le voir pour l'accompagner. Je sortais de l'école, je venais chercher mon père. Et pour marcher avec lui, pour parler avec lui. Et puis, il y a un mec qui a été vachement violent avec mon père. Je sais pas ce qu'il avait fait, mon père. Parce que c'était un sacré cavaleur, mon père, de femme, cavaleur dragueur. Et je crois qu'il... peut-être. J'ai réfléchi ce matin, en me réveillant, j'ai eu cette image. Et j'ai pensé qu'il avait peut-être une histoire avec sa femme. Et l'autre, je me rappelle la phrase, il a dit, t'as de la chance... d'être avec ton gosse, parce que sinon je t'aurais mis une branlée ou je sais pas quoi, je t'aurais cassé la gueule. Et mon père, il répondait rien, il était gêné, il a rougi, parce que j'étais à côté de lui. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, oh non, rien, rien. Et on aimerait toujours que son père soit un héros et qu'il ait dit au mec qu'il va te faire foutre ou qu'il lui mette son poing, quoi. Mais j'ai eu peur comme mon père, et j'ai senti que mon père avait encore aussi peur que moi. Et ça me l'a rendu à la fois assez proche.
Oui.
Ouais. Et en même temps, j'aurais bien voulu qu'il soit un héros. Bon, mais il n'était pas grand, mon père.
Parce qu'au contraire, vous auriez pu très bien le détester, parce que...
Ouais, non. Mais j'ai pensé qu'il y avait quelque chose que je comprenais pas, quoi. Et je me suis réveillé ce matin en disant, je vais retourner à Chelles. J'ai vu, comme on avait rendez-vous à la gare, j'ai revu ça. Ça m'a fait mal au cœur, quoi. Parce que c'était des petites gens. Et ils croyaient toujours qu'il n'y avait rien à faire, qu'on ne pourrait pas...
Et maman, là-dedans. Parce que
maman, un ange. Un ange. Ma mère ne parlait pas beaucoup. Elle ne parlait pas beaucoup. Mais on rêvait beaucoup ensemble, avec ma mère. C'est-à-dire que quand je ne voulais pas aller à l'école, quand je faisais l'école buissonnière, je ne voulais pas y aller. Ma mère, elle comprenait tous les stratagèmes, et comme elle était une grande rêveuse, elle était venue à l'école, elle avait un jour, parce que je me faisais engueuler beaucoup, petit même déjà, parce que je circulais, je parlais à tout le monde, j'étais libre, quoi. Elle disait, Jackie, parce qu'il m'appelait Jackie, elle dit, c'est un enfant rêveur, faut pas l'emmerder, quoi. Faut le laisser tranquille, et il a besoin de ça. Et quand je faisais... elle faisait venir le docteur de la famille qui faisait un mot comme quoi j'étais vraiment très malade. Et on attendait que le docteur parte. Un brave docteur sympa, marrant, qui comprenait. Il disait, ah oui, c'est très grave. Puis rigolait en même temps. Et là, on attendait qu'il parte et on partait avec ma mère. Dès qu'il était parti, on allait se promener tous les deux. Et comme il y avait les champs au bout de la maison, maintenant il y a plein de HLM, mais on partait, et puis voilà, elle me laissait rêver. Je pêchais dans un tout petit ruisseau, c'est même plus petit qu'un ruisseau, des poissons pour mon chien. Et avec ma mère, on s'est toujours compris comme ça. C'est plus tard qu'elle m'a raconté tout qui j'étais. Excuse-moi, je parle mal, là, je dis tout qui j'étais, Et puis là, on est... Ben voilà, ma mère, ça a été ma complice, quoi, en rêverie, en liberté de... Qui comprenait très bien. Qui disait toujours, mais... faut le laisser, quoi. Faut le laisser.
Elle avait confiance.
Ouais. Ouais.
Oh, my God. nuit, il y a deux boutiques. Dans l'une on vend de l'eau, dans l'autre on vend du lait. La première n'est pas sympathique, mais la seconde en revanche où l'on vend du lait, lait. C'est pour ça que tous les passants les montrent du doigt en disant: ah qu'il est beau le débile, ah qu'il est laid le débile, débile si beau, débile si laid. D'être un débile beau, c'est bien le beau débile. Au débile, il y a le beau Bobby. Au débile, il y a la belle Babé. Ils sont vraiment gentils, chacun dans leur débile. Le Bobby et la Babé sont aimés, car les badauds sont emballés par les bidons de les Babés. Mais on maudit que l'on débile.
Moi j'étais plutôt, j'ai toujours été un peu artiste en fait, c'est ça l'histoire. Même petit, j'écoutais de la musique des 78 tours parce qu'on m'avait donné un phono. Tu sais que tu remontais à la manivelle et on n'avait pas l'argent. Moins de moyens, puis sorti de la guerre, quoi, je crois. On n'avait pas d'argent. Pas de... Et mon père m'accompagnait au piano, il m'avait appris des chansons de Trenet, et c'est lui qui m'a fait découvrir, et Maurice Chevalier. Et ma grand-mère, elle chantait, ils faisaient des réunions de temps en temps.
Donc là, juste devant la gare en
fait. Non, là, c'était un radio-crochet qui était organisé. Et quelqu'un m'avait emmené proposer ça, et il y avait un tréteau, des tréteaux là, juste devant la gare, qui n'était pas du tout moderne comme maintenant, une vieille gare, quoi. Et là, j'avais chanté, j'avais eu le deuxième prix. Mais là, j'ai fait deux, trois radio-crochets. Il y en a un troisième, c'était près du métro Jaurès. Et j'ai gagné, là, le premier prix, qui était un voyage à Nice. Et c'est la première fois de ma vie que je sortais prendre le train pour loin, pour aller à Nice, quoi. Voyage de nuit et tout. Et quand je suis arrivé, les palmiers, l'odeur... La mer, ça m'a fasciné, quoi. Et là, la mer, on l'a rencontré, j'étais parti avec maman. Et puis, on l'a rencontré, la mère de ma mère, qui ne l'avait pas vue depuis des années, des années. Ma mère était fâchée avec sa mère. Et arrivé à Nice, je suis monté, elle m'a dit, c'est là qu'elle habite. Je suis monté, on a vu son nom et j'ai frappé à la porte. Il y a une dame qui m'a ouvert la porte, comme ça, une dame âgée. Et je lui dis, je suis votre petit-fils. Là, c'était très fort. Non seulement je venais de gagner le concours, il y a tout le voyage. Et elle m'a dit, mais tu es seul? J'ai dit, ben non, ma mère est avec moi. Elle dit, René, elle s'appelait, elle est où? Je dis, elle est en bas. Elle dit, mais va la chercher. Voilà, et c'était très fort, quoi. Il y a une photo de ça, parce que quelqu'un a pris une photo dans la rue et nous a donné le... La photo. Et voilà, elles sont réconciliées.
Alors, il arrive avec sa maman.
Françoise Canotier.
Au théâtre des Trois Baudets, il y avait un piano. Je crois même qu'il arrive avec un canotier. De mémoire, mon père m'a raconté qu'il arrive avec un canotier. En tous les cas, avec quelque chose qui...
Comme Maurice Chevalier.
Enfin, qu'il arrive quasiment déguisé, comme ça, avec un aspect très, très Maurice Chevalier, extrêmement à l'aise. Et donc, il se met au piano du Théâtre des Trois Baudets, piano sur lequel, entre parenthèses, ont démarré Michel Legrand au Théâtre des Trois Baudets, Darry Cole. Il se met donc sur ce légendaire piano, commence à chanter, et à ce moment-là, c'est absolument époustouflant. Il a déjà le talent, il a déjà le sens de l'improvisation, il a déjà... mais il chante des chansons de Trenet et de Maurice Chevalier. Mais c'est déjà... absolument extraordinaire. On sent que c'est déjà quelqu'un qui a un talent fou, enfin, qui a cette liberté. Hein. Je crois que c'est ça. Hein. C'est vraiment la liberté de Jacques Higelin. Mais voilà, le problème, c'est que mon père, lui, ne travaille jamais avec des enfants. Il ne veut pas travailler avec des enfants.
Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais, jamais voulu. Au niveau des lois, un enfant à 14 ans est beaucoup trop jeune pour assumer une vie d'artiste. Voilà,
je crois que mon père dit à sa maman, écoutez Jacques, il faut d'abord qu'il termine ses études, il faut qu'il fasse ses études. Et par principe, mon père n'a jamais voulu faire travailler des enfants. Et donc, il dit à sa mère, mais écoutez, qu'il revienne me voir, quand ce sera un adulte. Et c'est ce qui va se passer.
Déception, vous pensez ?
Sûrement, déception. Déception, mais quelle importance ! Quelle importance, une petite déception à 14 ans quand on voit la carrière extraordinaire de Jacques Higelin dans le monde entier. Peu importe, une petite déception à 14 ans, qu'il commence à 14 ans ou à 18 ans ou à 25 ans, c'est pareil, regardez, enfin, le talent est là, le talent, le génie, la poésie est là.
Mais finalement, il ne réalisait pas le rêve de son père en revenant de sa Détroit modèle.
C'est finalement votre maman qui, la première, a pris Jacques Higelin par la main pour la présenter à Monsieur Jacques Canetti à 10 ans.
Non, ça c'était autre chose, ça. C'est les parents qui ont décidé ça. Je ne sais plus comment c'est arrivé, ça. Il y avait des auditions aux Trois Baudets, à Paris.
Alors, le Théâtre des Trois Baudets, c'est un petit théâtre que mon père a créé en 1947. C'est quand même dans ce petit théâtre que Félix Leclerc a fait ses premiers pas de chanteur, d'auteur, compositeur, interprète. C'est là que Boris Vian, que Georges Brassens s'est essayé pendant 2-3 ans. C'est là que Jacques Brel, quand il est arrivé à Paris en 1953-54, est passé pendant 2-3 ans également pour essayer toutes ses chansons. Gainsbourg y a fait ses premiers pas. Henri Salvador. Je dois dire que le Théâtre des Trois Baudets, sous la direction de Jacques Canetti, a vraiment vu la naissance des auteurs, compositeurs, interprètes.
C'était un peu le lieu incontournable quand on voulait devenir chanteur et faire chanteur, comme on dit.
Voilà, exactement. Quand on voulait faire chanteur, on allait au Théâtre des Trois Baudets. Et donc mon père organisait une audition par mois, tous les lundis soirs. Et puis Canetti voyait si ça pouvait l'intéresser. Mais c'était quelqu'un d'extrêmement ouvert et d'extrêmement intuitif. Il écoutait vraiment.
Et après ça, il y a quand même eu Sidney Béchet.
Ah ouais, ouais. C'était une opérette.
En 54, sauf erreur.
Ah, tu crois ? Ouais, sûrement, j'avais 14 ans, 15 ans. Par la rencontre avec Roland Toutain, qui était un cascadeur, mais un mec complètement givré, mais vrai, un copain d'Eric von Stroheim. Il jouait de la guitare, et il jouait du ukulélé aussi. Il dansait les claquettes et il m'a montré tout ça. Roland Toutain. Personne ne se souvient plus de ce mec. Il a fait un film qui s'appelait Trois de l'escadrille. Donc j'ai rencontré tous ces gens-là dans sa baraque à Chelles, mais près du canal. Et voilà quoi, c'était la rencontre. Et là-dessus, montait un spectacle au Théâtre de l'Étoile qui s'appelait Nouvelle-Orléans, qui était une opérette. Et là, j'avais 4 rôles de figuration intelligente, ce qu'on appelait, c'est-à-dire des petits rôles. Je jouais le fils d'un chef indien, après je jouais un soldat sudiste, un soldat nordiste, ça se passait à Nouvelle-Orléans, un 4e petit rôle, et puis je faisais répéter une chorale, parce que comme je jouais du piano et tout, et rencontre mémorable avec Sidney Béchet, et la première rencontre où j'ai rencontré Sidney, c'est qu'en fait je suis arrivé en avance parce que je voulais les voir répéter, tu vois, pour moi c'était fabuleux de voir ces mecs qui faisaient du jazz, quoi. Et j'entends jouer du Chopin au piano. Je rentre et je vois Sidney Béchet tout seul au piano, les yeux mi-clos, renversé, très romantique, quoi. Et il jouait du Chopin, tu vois. Et c'était incroyable pour moi de voir un jazzman en train de jouer du classique, très profondément musicien et inspiré, quoi. Jouant ça à la perfection.
Choc.
Et puis après, il m'a dit, ah, tu es là, petit, ouais, ça t'intéresse, la musique et tout ça. J'ai dit, ouais. Et il me dit, tu veux essayer mon sax? Mon sax soprano? Et puis j'ai dit, ouais. Et puis il me l'a passé, il m'a montré où mettre les doigts et tout ça. Tu vois, c'était vraiment génial. Et moi, dans ma maison de banlieue, là, je ramassais des fois des instruments cassés. Et devant la glace, je mettais les disques, 78 tours, je remontais, puis devant la glace, je jouais comme si c'était moi qui jouais, quoi. Et là, je me suis dit, musicien, ça me dit vraiment quelque chose, ça me dit vraiment. Donc, j'ai commencé par apprendre la musique avec l'oreille, quoi. Et New Orleans a démarré le truc. À partir de là, j'ai fait un peu de scène, donc. Et ils ont dit, bah, le gosse, il faut qu'il... ça marche pas non plus avec l'école pour les gosses qui veulent être musiciens, artistes. Et on savait que René Simon passait des auditions. Donc je suis allé. Là, je devais avoir entre 15 et 16 ans. Et j'ai passé une audition et il m'a pris.
C'était la révélation, là, quand même.
Et là, comédien. Mais comédien et musicien. À mes heures. Et il y avait un piano aussi chez René Simon. On était deux, Jean-Jacques Debout et moi, à jouer du piano pour les élèves hein, qui disaient, quand il n'y avait plus de professeurs, que tu vois, ça se terminait. Les filles, bien sûr, qui étaient autour du piano. Ouais. Et moi, en train de faire des... du scat, tu vois. Et j'ai eu vraiment un apprentissage incroyable. À la fois autodidacte et à chaque fois piquer un plan à quelqu'un qui jouait, voir, lui dire tu me montres, et en fait c'est comme ça que j'ai appris. Et puis là, comédien, et puis à partir de ce moment-là que j'étais comédien chez René Simon, apprenti comédien, et un jour René Simon il m'a convoqué, il m'a dit écoute, il m'a parlé sérieusement à un moment donné, il m'a dit un jour tu joueras les héros. Et j'ai jamais su si c'était les héros d'armes, ceux qui annoncent les batailles et les trucs, ou les héros, H-E, accent aigu, R-O-S, quoi, héros. Et en fait, c'est ça qu'il disait. Et j'ai toujours repensé toute ma vie qu'après, quand je suis arrivé en scène, un jour, quand je me suis mis à chanter, que tu pouvais être une espèce de héros, comme dans la tragédie, comme dans la comédie, ou bien tu t'envoies des messages, tu vois, des trucs poètes, quoi. Mais, et là, j'ai commencé à être confronté au théâtre et à tous les textes. J'ai joué Monterland, j'ai joué Camus, j'ai joué... Mais ça m'a libéré, si tu veux, le fait de faire du théâtre après. M'a libéré dans le sens que j'ai pris le plateau. Tu vois, on prenait la scène au théâtre, on n'était pas rivé à un micro... Et j'ai gardé ça, mais le fait que j'arpente la scène en toute liberté, que je saute dans la salle où je parle aux gens et tout, c'est là que c'est né. C'est le fait d'avoir été comédien.
Ma rencontre avec Jacques Higelin s'est produite, je dois avoir 15 ans, 14-15 ans, lui devait en avoir 17, 18, puisque là, voilà, on a 3 ans d'écart. Et il était animateur à Calvi dans un club de vacances qui s'appelle toujours le Club de l'Horizon.
Daobi.
J'allais assez souvent dans ce club-là où je me mettais devant la terrasse puisque je pouvais pas m'installer pour boire des verres comme ça puisque j'étais trop jeune. Et donc je regardais ce gars sur scène qui m'impressionnait déjà un petit peu parce qu'il jouait du piano, il chantait. Et moi, mon fantasme, mais ça me plaisait beaucoup de jouer du piano déjà à l'époque. Je chantais, mais pas en m'accompagnant, mais quand je voyais quelqu'un qui jouait du piano et qui chantait en même temps, ça me fascinait un petit peu, donc voilà pourquoi Jacques me fascinait. Après, lorsqu'il avait fini son spectacle, c'est-à-dire vers minuit, il venait à la boîte que mon père avait à Calvi, qui s'appelle Chez Tao à Calvi, donc à la Citadelle, et je voyais ce gars qui prenait une guitare ou qui s'installait au piano et qui chantait une chanson.
Et puis au milieu de tout ça, il y a ces vacances au club Horizon et la rencontre...
Ça, c'était par un professeur de chez René Simon.
Alors, qui m'a dit. Il y a Tao quand même. Hein,
ouais, mais qui m'avait vu jouer du piano, ce professeur, Jean Chevrin. Et qui me dit je pars 3 mois au Club de l'Horizon en Corse, est-ce que tu veux venir? Et là, il m'a emmené à Calvi et c'était mes premières vacances. Et là, je joue dans ce club et débarquent les trois frères Tao, Jean Témir, Zalim et Taobi.
Mais on était entre nous à une table et puis il chantait ça. Voilà, c'était pas du tout une vedette ou quoi que ce soit. C'était un jeune animateur qui avait 16-17 ans.
Qui avait à peu près mon âge et qui ont sympathisé avec moi et puis qui m'ont emmené chez Tao, le père, Tao Khan, et que j'ai vu Tao qui faisait agenouiller tout le monde à minuit en passant une chanson de Tino Rossi qui disait à la gloire de l'empereur Napoléon et tout était éclairé à la bougie et tout, c'était génial. Mais c'est là que j'ai appris à nager. J'avais jamais nagé. Donc je voulais jamais aller aux piscines car j'avais honte de mon corps et je voyais tous les mecs plonger et tout. Et puis là, il y avait toute la mer pour moi et c'est pour ça que j'ai toujours eu horreur des piscines et que je ne supporte que la mer. Je nage comme une patate, mais je nage. Je surnage.
Jacques Higelin. Réalisation, Dominique Martineau-Lagarde. Assistant de production, Julien Vanasse. Une production de La Première, RTBF, pour les radios francophones publiques, sur France Inter.
Tu vois, ma maison, elle était là, notre maison. Et tu vois, ils ont construit un truc sur le devant, là. En fait, elle s'arrêtait là. Elle était toute en hauteur.
Toute petite.
Il y avait nous en haut, il y avait... Mes parents, la salle à manger, tout ça.
J'étais là quand même assez l'un sur l'autre avec.
Mes grands-parents, ils logeaient dans là. Et là, c'était là où le chien aboie, c'était des Italiens. Il y avait ça, mais il n'y avait pas le truc rajouté. Elle était grande quand même. Nous, on habitait. Mes parents, ils logeaient là. Et j'ai des rêves avec ça. Et à chaque fois, c'est bizarre, je vais être marqué par la guerre. À chaque fois que je rêve, je ne vois pas du tout le HLM. Je vois le terrain jusqu'au coteau et il y a toujours des petites lueurs dans le ciel et on me dit c'est les avions qui arrivent et qui vont bombarder quoi. Et tous les rêves que je fais de bombardement, c'est dans cette maison là
et non pas
et dans la chambre de mes parents
et non pas à Brou alors que non. Ça s'est passé à
ouais.
Brou.
Et à chaque fois, j'ai fait des rêves incroyables ici où je vois par la fenêtre de mes parents là, tu vois en haut. Je vois passer des avions mais que je connais pas, que j'ai inventés, qui sont des monstres. Tu vois, qui passe au ras, dangereux, enfin bizarre. J'ai fait des rêves inouïs en partant de là, quoi. Et c'est toujours dans cette fenêtre-là, et la petite fenêtre à côté, tu vois, là-haut. Et là, on faisait du vélo, il n'y avait aucune bagnole, là, tu vois les bagnoles garées. Aucune. Et quand il y avait une bagnole qui arrivait, comme la bagnole qui vient de passer, c'était soit une 4 chevaux, soit une 2 chevaux, soit... Il y en avait une ou deux par jour, éventuellement. Et on l'entendait venir de loin, parce qu'il n'y avait aucun bruit. Et là, on s'arrêtait et on regardait la personne qui pouvait avoir une voiture. Quoi. C'était un truc de fou, avenue de Louvois.
quand le parc mon sourire amène sa fraise. Les matins où le soleil vous mord la peau, le dos collé à la chaise, les pieds au bord de la pièce d'eau. Ça me rappelle cette valse autrichienne que papa jouait en rentrant du boulot. Mon cœur est déchiré, séparé du tien. Je me sens comme un routier entre loup et chien. La vie, c'est ce qui vous tombe dessus, toujours au moment où on n'y croit plus. Ma coupe est pleine de nostalgie. Devant le comptoir du tabac, mon sourire. Les clodos me livrent la marchande de journaux, m'offre un pot, m'interpelle. Hey Jacques, hey, tu viens de te lever là ou tu rentres te coucher? Oh, je vis pas ma vie, je la rêve. Le soleil fait la grève et moi aussi. C'est comme une maladie que j'aurais chopée quand j'étais tout petit et qui va pas me lâcher avant qu'elle m'achève.
Jacques Higelin, hélas, c'est fini pour aujourd'hui, mais n'ayez crainte, rendez-vous demain à 14h sur France Inter pour découvrir l'épisode numéro 2 de Henri Crolla au service militaire.